En fin de compte, ces contes sont pour les enfants.
En fin de compte, nous sommes tous encore des enfants.
En fin de compte, écoutons.
C'est l'heure du conte.
Le grand voyage.
En fin de compte, à rebours.
En fin de compte,
1,
2,
3.
La pêche de Moï, adaptée d'une légende maori.
Tirée de Mille ans de contes, édition Mille ans.
Moï était le cinquième et dernier fils d'une très jolie femme, Taranga. Comme il était né avant terme et qu'il était frêle et de santé délicate,
Taranga aurait dû l'étouffer, comme le voulait la coutume de ces îles d'Océanie.
Mais l'enfant la regarda, et il y avait tant de tendresse dans ce regard que Taranga ne put se résoudre à lever la main sur lui.
Au lieu de cela, elle coupa sa propre chevelure dont elle enveloppa le corps du bébé. Puis elle jeta ce ballot vagissant dans les flots.
Les vagues bercèrent Moï, dont les cris peu à peu devinrent de joyeux gazouillis.
Le dieu de l'océan, qui savait et qui voyait tout, le prit sous sa protection. Il s'occupa personnellement de lui.
Auprès d'un tel maître, Moï apprit tous les secrets de la mer, au point d'acquérir les pouvoirs d'un demi-dieu.
Il grandit et devint un beau jeune homme.
Alors Moï fit ses adieux au dieu de l'océan, et quittant les froides profondeurs du royaume sous-marin, il se dirigea vers les eaux plus chaudes, puis vers le rivage.
Enfin, il débarqua sur une plage de sable blond. Là, il rencontra un vieil homme du nom de Tama, qui lui proposa de vivre avec lui dans une cabane non loin de la mer.
Et Moï, heureux de tant de générosité, accepta avec joie.
Tama enseigna au jeune Moï les habitudes des hommes et les secrets des animaux.
Il lui chanta les chants sacrés de sa tribu et lui apprit aussi tous ses tours de magie.
Un beau jour, Moï, versé à la fois dans les arts de la mer et dans ceux de la magie, demi-dieu et magicien, déclara
« À présent, je dois me rendre auprès de mon peuple. »
Et, à nouveau, Moï fit ses adieux à celui qui fut son père adoptif et son maître. Puis il s'éloigna.
Il traversa une forêt de cocotiers, des dunes de sable et une bananeraie avant d'atteindre une clairière au centre de laquelle se trouvait une longue maison.
De la fumée s'échappait par l'unique cheminée. Parmi les personnes qui allaient et venaient, Moï distingua une grande et belle femme.
C'était Taranga.
Moï la reconnut aussitôt et s'approcha d'elle.
« Maman, c'est moi ton fils. »
Taranga le regarda.
Et oubliant le fragile bébé dont elle s'était un jour débarrassée il y a si longtemps, elle déclara.
« J'ai quatre fils et vous n'êtes pas l'un d'eux. »
« Non, vous avez cinq fils, répliqua Moï. Je suis le cinquième que vous avez enveloppé de votre chevelure et que vous avez jeté dans la mer. Je suis Moï. »
Aussitôt, Taranga sut que cet étranger disait vrai. Elle le prit dans ses bras et le serra très fort contre elle.
Elle l'aima de tout son cœur et Moï vint habiter avec ses frères et sa mère.
Les années passèrent.
Moï et ses frères se marièrent.
Ils eurent des enfants.
Toutefois, la femme de Moï n'était pas contente. Elle faisait sans cesse des reproches à son mari.
« Tu es paresseux. Oh là là, d'une paresse. Et en plus, tu ne rapportes pas assez de poissons. »«
Mais je suis un excellent pêcheur, protesta Moï. N'est-ce pas le dieu de la mer en personne qui m'a appris à pêcher ?»«
C'est ce que tu dis. »
continua sa femme enhardie, car elle se savait soutenue par les frères de Moï.
« Mais on ne peut pas dire que tu t'exerces très souvent. Et s'il t'arrive de ramener une belle prise, tu restes ensuite une semaine à les herder au soleil, à te reposer pendant que tes enfants et moi mourrons de faim. »
Les frères de Moï, qui tous étaient jaloux de lui depuis son retour des royaumes sous-marins,
fatigués d'entendre ses grandes théories à propos de sa demi-déité, acquiescèrent.
« Tu es un paresseux, Moï, » déclarèrent-ils. « Nous plaignons sincèrement ta femme et tes enfants. Tu dis que tu es un demi-dieu, mon œil. » Tu es plutôt un demi-homme, oui.
Piqué par ses attaques et ses insultes, Moï décida de montrer à ses frères qu'il était bien le plus habile pêcheur de tous les temps.
Il prit une dent de requin que lui avait donné le dieu de l'océan, et en secret, à l'insu de ses frères, il entreprit de la tailler pour en faire un hameçon.
Puis, il le polit en chantant les incantations magiques de Tama.
Après avoir façonné l'hameçon,
Moï retourna auprès de sa femme.
« Demain, j'irai pêcher avec mes frères, » lui annonça-t-il.
Elle le regarda, incrédule, et se mit à bâiller.
Il lui avait tellement dit cela qu'à présent, elle ne le croyait plus.
Puis, Moï se rendit auprès de ses frères.
Demain, je viendrai pêcher avec vous. Vous ne cherchez qu'à vous remplir l'estomac et à calmer votre faim. Mais je ramènerai quelque chose qui vous éblouira. Vous en resterez muet d'étonnement.
Ses frères s'esclaffèrent.
Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Lui répondirent-ils.
Demande à tes enfants s'ils préfèrent avoir un père qui rapporte des poissons ou bien un père qui passe son temps à se vanter.
Sur ces paroles amicales, ils le quittèrent en riant et en se moquant de lui.
Mais Moïse en avait cure.
Il avait caché dans sa poche son hameçon magique et il souriait du sourire de l'homme qui est dans le secret des dieux.
Le lendemain, Moïse accompagna ses frères à la pêche.
À leur grande consternation, il les enjoignit de pagayer très loin du rivage.
Mais pourquoi ?
Objecta l'un d'entre eux, les sourcils froncés.
C'est dangereux et cela ne sert à rien. Il y a autant de poissons près de la côte. Et en plus, le courant nous entraînera vers le grand large.
Et puis, tu sais bien que les poissons préfèrent rester près des côtes où l'eau est plus tiède.
Les poissons, toujours les poissons. Pourquoi devrais-je, moi, qui suis un demi-dieu, me contenter de pêcher du poisson? Je vous le demande un peu. Continuons à pagayer. Il faut nous éloigner des terres. Allons vers le large où la mer est bleu foncé et partons à la recherche des mystères du dieu de l'océan.
Ses frères regardèrent Moïse terrifiés. Mais l'autorité qui émanait de lui était telle qu'ils ne purent que lui obéir.
Ils pagayèrent de toutes leurs forces et entraînèrent leur pirogue par-delà les vagues écumeuses jusqu'à ce que la terre disparaisse à l'horizon.
Ils étaient en pleine mer. L'océan les environnait de toutes parts.
Puis Moïse sortit de sa poche son hameçon fabriqué à partir d'une dent de requin sacrée.
Taillé selon la manière que lui avait enseigné le dieu de l'océan.
Et poli grâce au secret magique du vieil homme Tama.
Il le fixa à une canne et il jeta sa ligne à l'eau.
Comme l'hameçon s'enfonçait dans l'eau, les frères de Moïse se rapprochèrent les uns des autres et regardèrent la ligne en se demandant, avec une certaine crainte, ce qu'il allait arriver.
Seul Moïse n'avait pas peur. Il savait très bien ce qu'il y avait sous la mer, car c'était le royaume du dieu de l'océan et qu'il y avait passé toute sa jeunesse.
Pour commencer, Moïse sentit que l'hameçon s'accrochait.
Mais il ne ramena pas sa ligne.
Ce n'est qu'une statue qui trône au sommet d'une tour. Ce n'est pas la peine de la remonter.
Expliqua-t-il en souriant à ses frères.
Il libéra l'hameçon, le remonta, puis le rejeta à la mer.
Pour la seconde fois, l'hameçon s'enfonça dans les eaux de l'océan Pacifique.
Moïse attendit qu'il s'accroche, puis, sentant que cette prise était solide,
il se retourna vers ses frères.
Cette fois-ci, ça y est, vous allez voir ce que vous allez voir.
Moïse savait que son hameçon était accroché au palais du fils du dieu de l'océan.
Alors, en tirant de toute sa force, Moïse se mit à chanter les incantations magiques que lui avait apprises Tama.
Il tirait, tirait, tirait. Petit à petit, il sentait qu'il ramenait une grande prise.
Et pour cause, il tirait avec toute la force d'un homme agrémenté de celle d'un dieu et de celle d'un mage.
Les cinq frères se sentirent soulevés.
De la boue marron entoura la pirogue.
Des carrés de pelouse apparurent de ci, de là, entre les vagues.
Moïse continua à tirer et à ramener sa ligne.
Les fondations du palais du fils du dieu de l'océan étaient tellement solides, tellement bien fixées au fond de la mer, que, en même temps que le palais émergeait, il entraînait le fond de l'océan.
D'abord le toit apparut, puis le palais, puis le jardin, et regardant soudain autour d'eux, Moïse et ses frères s'aperçurent que leur pirogue, loin de flotter sur les eaux de l'océan Pacifique, était posée sur de l'herbe.
Ils restaient muets d'étonnement, sidérés, comme le leur avait prédit Moïse. Moïse et ses frères sortirent de la pirogue.
« Attendez-moi ici, je vais aller voir le dieu de l'océan. Il faut que je lui parle et que nous fassions la paix. »
Moïse laissa ses frères on ne peut plus ébahis devant le joli paysage qui s'étendait autour d'eux.
Dès que Moïse fut hors de vue, les quatre frères commencèrent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux serait le roi de cette nouvelle île.
Ils crièrent, se battirent, trépignèrent. Ils se jetèrent des pierres et des poignées de terre et des cailloux.
À ce rythme, ils eurent au fait de séparer la grande étendue de terre en deux îles.
Les pierres qu'ils avaient jetées devinrent des montagnes.
Les endroits où leurs pieds s'étaient enfoncés lorsqu'ils trépignaient devinrent des lacs.
Les touffes d'herbe devinrent de petites îles tout autour du rivage.
Lorsque Moïse revint, ses frères avaient donné à la Nouvelle-Zélande la forme qui est la sienne aujourd'hui.
avec ses deux grandes îles.
Ses montagnes et ses lacs.
Ainsi que les petites îles autour des côtes.
Car, au cours de ce lointain jour ensoleillé,
c'était la Nouvelle-Zélande
que Maui avait hissée des profondeurs sous-marines.